Dominus vobiscum.
Dominus vobiscum.
Le Seigneur soit avec vous.
Jauna suekin.
El Señor esté con vosotros.
The Lord be with you.
Présentation de la nouvelle traduction française du missel romain. Monseigneur Marc Ayé.
Donc j'en viens maintenant à préciser quelles sont les traductions nouvelles, en particulier pour la participation des fidèles. D'abord, il faut savoir que ce travail de traduction a été un travail de bénédictins, c'est le cas de dire, parce que dans cette commission, il y avait des bénédictins. Un travail de romain, on peut dire. D'ailleurs, c'est le missel romain, donc ça tombe bien aussi. Ça veut dire que c'est un travail qui a duré près de 20 ans. Bon, c'est au bout de 20 ans, après que le pape Saint Jean-Paul II ait demandé la révision des traductions en langue vernaculaire, de l'édition typique en latin, qui a été promulguée par le pape Saint Paul VI, et qui a été rééditée par le pape Saint Jean-Paul II en 2002, eh bien, c'est au bout de 20 ans que nous arrivons enfin à cette nouvelle traduction qui, selon la demande de Saint Jean-Paul II et réitérée par le pape François récemment, se veut plus fidèle au texte latin et donc qui nous permettra sans doute de participer de manière plus consciente au mystère de la foi qui est célébré dans l'Eucharistie et qui est à vivre dans notre vie. Alors, je vais simplement commencer par dire ce qui change pour les fidèles, parce que tout a été retraduit. Donc c'est vrai pour les oraisons, qui sont prononcées par le prêtre. C'est vrai pour les prières eucharistiques, qui sont aussi prononcées par le prêtre. C'est vrai pour les préfaces, pour le sanctoral, le temporal. Tout a été révisé. Et certainement qu'on aura l'occasion, bien sûr, de le préciser, même pour les parties propres aux prêtres, mais qui font partie de l'ordinaire de la messe, pour aider les fidèles à mieux participer encore à la liturgie grâce à ces petites modifications de traduction. Commençons par les choses qui vont changer dans la participation des fidèles, dans l'ordinaire de la messe donc, dans les dialogues avec le prêtre. Le premier changement se situe dans l'acte pénitentiel. L'acte pénitentiel qui précède la liturgie de la parole, qui introduit d'une certaine manière au mystère de l'Eucharistie et qui nous rend aptes, disponibles, en nous reconnaissant pécheurs, pour participer à ce grand acte liturgique qu'est le sacrifice de Jésus rendu présent dans l'Eucharistie. Le célébrant dit donc maintenant « frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. » Vous voyez, la différence, c'est qu'avant, on disait « préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. » Oui, nous sommes pécheurs, mais nous avons péché. Et donc, c'est le moment, un petit moment de silence d'ailleurs, qui suit cette monition, où nous reconnaissons les péchés de notre vie pour en être pardonné, en particulier les péchés véniels, qui sont pardonnés par l'absolution que le prêtre proclame en concluant l'acte pénitentiel, et en particulier le « Je confesse à Dieu », sachant que ça nous relie aussi à notre dernière confession pour les péchés plus graves que nous avons confessés. Donc préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie. C'est très important que nous comprenions que c'est bien un mystère à croire, un mystère à célébrer, un mystère à vivre, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, c'est-à-dire c'est le grand mystère caché, parce que mystère veut dire ce qui est caché dans le cœur de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous, que nous allons célébrer dans l'Eucharistie, et donc nous reconnaissons que nous sommes inaptes à célébrer un tel mystère à cause de nos péchés, en reconnaissant donc que nous avons péché. Dans le « Je confesse à Dieu », qu'est-ce qui va changer? Deux choses, ou trois choses, on va dire. D'abord, je le dis avec vous, « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs. » Je reconnais devant vous, frères et sœurs, pas seulement frères, mais frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, tout ça ne change pas. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, Beata Virgo Maria, comme on le dit dans le latin. Donc on a ajouté ce bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Donc, vous voyez, on ajoute seulement sœur à frère. On dit devant vous, frères et sœurs, au début du Confiteor. Donc c'est bien devant mes frères et mes sœurs que je me reconnais pécheur. Et je supplie la bienheureuse Vierge Marie. Donc ça n'est pas très difficile. Ensuite, la deuxième grande différence que nous aurons, enfin grande différence, petite différence, dans l'hymne du Gloria, lorsqu'il y a lieu, c'est-à-dire les jours de fête, solennité ou le dimanche, nous ne disons plus « Toi qui enlèves le péché du monde », mais la traduction du latin qui est « peccata mundi » et non pas « peccatum mundi », eh bien on traduit désormais, de manière plus littérale, « Toi qui enlèves les péchés du monde ». Toi qui enlèves les péchés du monde deux fois, c'est la seule différence que nous trouverons dans le chant du Gloria. Ensuite, vous remarquerez que la traduction de la doxologie qui conclut la prière d'ouverture de la messe a été modifiée pour être plus fidèle au latin. Désormais, le célébrant dit, de manière générale, quand c'est par le Christ, quand la prière est adressée au Père, c'est-à-dire le plus souvent, « Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. » Ça veut dire qu'on rassemble Jésus le Fils avec le Père et l'Esprit-Saint, qui ne font qu'un seul Dieu. C'est pourquoi on dit Dieu pour les siècles des siècles. On ne dit pas seulement notre Seigneur et notre Dieu, comme nous disions pour dire que le Fils est Dieu, mais on dit les trois personnes de la Sainte Trinité pour dire qu'il est Dieu. Les trois personnes font un seul Dieu pour les siècles des siècles. Ce qui est plus conforme aussi à la foi dans le mystère trinitaire qui imprègne toute la liturgie. Ensuite, la grande réponse du peuple de Dieu à la liturgie de la parole, c'est le credo. Et quand on prend le grand credo de Nicée-Constantinople, eh bien, on ne dit plus « engendrer, non pas créer, de même nature que le Père », cette expression qui voulait traduire le latin « consubstantialem patri », on a repris le terme exact, littéral, de « consubstantiel au Père ». C'est très important ça, parce que si vous et moi, nous sommes de même nature, nous sommes distincts, nous ne faisons pas qu'un. Alors que le Père, le Fils et l'Esprit Saint, s'ils sont distincts par leur relation au sein de la Sainte Trinité, ils ne font qu'un seul Dieu. C'est ce que exprime ce mot consubstantiel, qui traduit un mot grec homoousios, qui était défini au concile de Nicée en 325 contre l'hérésie arianiste, qui a fait des ravages à l'époque, en particulier en Gaule, mais dans toute la chrétienté, et qui considérait que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Il était seulement par adoption. Donc quand nous disons de même nature, ça n'est pas suffisant. C'est vrai que Jésus a la même nature que le Père parce qu'il est Dieu. Mais ils ne font ensemble qu'un seul Dieu, consubstantiel, une seule substance. Donc le mot théologique a été replacé en français dans le symbole de Nicée-Constantinople. Vous y serez attentifs. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait.